Parole de femmes du Tarn, un réseau de soutien et de ressources pour les femmes. Dans ce feuilleton, les salariés et intervenantes de l'association Parole de femmes du Tarn prennent la parole pour présenter les accompagnements, ateliers, permanences et ressources proposées aux femmes sur tout le territoire. Un tour d'horizon des aides concrètes mises en place au plus près des besoins.
Bonjour, donc je m'appelle Céline Roucol et je travaille à l'association Parole de femmes depuis 5 ans. Je suis salariée en charge de la mission ruralité et également avec une casquette d'accompagnement des femmes victimes de violences et ou en difficulté.
La ruralité est très importante parce que dans cette problématique des violences faites aux femmes, il y a bien souvent le mot d'isolation et donc d'isolement et parfois aussi de mobilité qui rentre en compte.
Tout à fait. C'est pourquoi, en effet, nos locaux principaux, le siège de l'association est situé à Gaillac, mais nous avons développé assez rapidement l'association, elle a 20 ans. J'aurais plus en tête à la date de l'ouverture de la première permanence délocalisée, ce serait intéressant, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on maintient, cet accueil de jour finalement délocalisé en milieu rural. Pour justement permettre aux femmes les plus isolées, où il y a aussi, alors parfois c'est l'isolement géographique, mais ça peut être aussi en effet les questions de mobilité qui font que accéder à Gaillac ce n'est pas possible, ou simplement d'organisation au niveau du travail, la garde des enfants. Enfin, voilà, on sait qu'il y a de nombreux freins, et donc nous permettre avec ces points d'accueil et d'accompagnement dédié justement aux femmes en milieu rural, ça leur permet d'avoir à minima un premier accueil. Parce qu'on sait, et c'est un peu ce qu'on on déplore quelque part, c'est que l'accompagnement qu'on va proposer dans le cadre de ces permanences délocalisées ne reflète pas l'accompagnement qui peut être proposé à l'association, parce que tous nos ateliers collectifs, notamment, sont centrés autour de Gaillac, soit dans nos locaux, soit un tout petit peu autour, mais c'est déjà un début.
Comment ça se passe ces permanences délocalisées ?
Déjà, la prise de rendez-vous se fait, quoi qu'il en soit, via le standard de l'association, donc Gaillac. Après, nous, on peut s'organiser de multiples façons, j'ai envie de dire, pour prendre rendez-vous. Il est aussi possible, même si c'est assez rare, de venir directement sans rendez-vous. Et j'invite quand même les femmes ou les personnes qui peuvent rencontrer quelqu'un qui pourrait être intéressé à s'en saisir, parce que parfois on ne peut pas tout simplement s'organiser et on peut tout à fait nous débloquer un petit créneau, ne serait-ce que pour échanger si jamais la permanence est complète. Ce n'est pas toujours le cas. Donc voilà, on s'organise, il peut y avoir évidemment des rendez-vous en urgence. Voilà.
Donc on est sur des rendez-vous individuels.
Tout à fait, c'est une permanence individuelle uniquement. Et on est, pour l'instant, en tout cas nous, on est situé dans plusieurs villages et villes du département et également hors département, mais c'est vraiment une exception. Autrement, on est une association tarnaise, voilà, je le répète parce que voilà, on a, je vais les citer, les différentes permanences délocalisées. Donc on a une permanence délocalisée à Vaour, aux Cabanes, également, donc à côté de Cordes-sur-Ciel, une permanence à Puy-Laurent, une permanence à Revel, donc c'est là où on est en Haute-Garonne, qui est donc une exception pour nous. Et ensuite, la dernière permanence, en tout cas actuellement, qui est ouverte, c'est la permanence de Carmaux, qui a ouvert récemment. Et une permanence se rajoutera à l'automne 2026, à du coup Groyer.
Comment se passent ces temps d'échange dans les permanences qui sont souvent le premier contact que vous avez avec certaines femmes, qu'elles soient en zone rurale ou pas, parce que certaines Gaillacoises peuvent décider d'aller à Vaour pour faire leur rendez-vous là-bas pour des raisons des fois aussi de confidentialité, d'anonymat.
Tout à fait, oui, c'est intéressant de le dire. C'est vrai que ça nous arrive à contrario de recevoir des femmes qui auraient pu peut-être, par exemple, se rendre sur la permanence de Puy-Laurent ou de Vaour et qui préfèrent venir justement à Gaillac pour préserver leur anonymat quelque part dans une autre ville et donc s'excentrer de leur milieu de vie. Mais autrement, oui, c'est donc l'inverse est vrai aussi. Ces permanences ont lieu, donc, assez variables, parfois dans des maisons France Service, ce qui aussi répond à une, quelque part à une réalité du milieu rural, puisque on a un peu plus besoin de cet anonymat qu'on ne retrouve pas en milieu rural et qui, dans le cadre de violences intrafamiliales ou dans le couple, malheureusement, est un frein à la libération de la parole, est un frein au départ du domicile conjugal, parce qu'il y a justement cet entre-soi, cette interconnaissance, nous on parle d'interconnaissance entre les voisins, entre potentiellement le médecin, la gendarmerie, l'école. En tout cas, c'est assez rapide. On fait vite le tour de l'entourage d'une personne victime. Et en faisant ce tour-là, eh bien, malheureusement, ça rend compliqué la libération de la parole, parce que nous, en tout cas, c'est les mots des femmes qu'on reçoit, elles vont nous renvoyer que déjà, elles ont peur de ne pas être crues d'emblée, mais qu'en plus, sachant que monsieur est connu et quelque part a une aura, où, voilà, en tout cas, il est assez valorisé par son voisinage ou connu de la gendarmerie parce qu'il joue dans la même équipe de foot ou de rugby, je ne sais quoi. En fait, ça va assez vite. Et donc, ça met une chape de plomb un petit peu sur la libération de la parole, tout simplement. Donc c'est pour ça, je reviens à l'idée de nous venir tenir une permanence dans une maison France Service. C'est un lieu où en fait plusieurs administrations, plusieurs organismes reçoivent du public. Donc on n'est pas fiché quand on rentre, on n'est pas identifié, en tout cas en tant que femme qui vient nous rencontrer, nous l'association Parole de Femmes. Voilà, c'est un petit peu plus anonyme tout en restant dans le milieu rural. Mais on n'est pas uniquement dans les maisons France Service, on a aussi des permanences dans des endroits un petit peu discrets.
Discrets. On ne libère pas vraiment la parole, si?
J'ai envie de dire, quand on vient déjà vers nous, la parole, quelque part, elle a déjà été posée, libérée. Je crois que c'est un peu notre place à l'association, puisque moi j'ai la sensation qu'on n'est pas en première ligne. Parfois, c'est plutôt d'autres personnes professionnelles de santé qui sont amenées finalement à recevoir pour la première fois la parole d'une femme, voire des proches aussi. Hein. Quand on pousse notre porte, étant donné que voilà, on propose un accompagnement spécifique pour les femmes victimes de violences, c'est déjà quelque part un deuxième pas. C'est le sentiment que j'ai. C'est pas toujours le cas. Ça peut être l'inverse, peut être vrai aussi. Et on est là, évidemment, pour recueillir toute parole, quelle qu'elle soit, sans jugement. Voilà, et cet accompagnement individuel qu'on va proposer, je pense que ma collègue donc, en a pu en parler. Mais disons que, certes, on est délocalisé, nous aussi, quand on vient en tant que salarié, on intervient en milieu rural hors de Gaillac. Mais sinon, on s'adapte à la réalité du terrain. Donc on tisse des liens avec les partenaires locaux, donc hors Gaillac forcément, pour proposer aux femmes l'accompagnement à peu près similaire à ce qu'on pourrait proposer à Gaillac. L'unique différence, c'est la distance quand même. C'est pas toujours évident. Nous, on revient qu'une fois par mois. Donc parfois, pour certaines situations, un accompagnement plus rapproché est nécessaire dans les premiers temps. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué, il faut s'adapter. Mais c'est notre rôle et c'est notre travail qui est de toute façon constamment adaptable. Et en effet, on s'adapte à la situation, enfin, on propose un accompagnement un petit peu à la carte.
Il s'agit là des relais ruraux ?
Non, pas du tout.
Là, ok, vraiment, qu'est-ce que c'est les relais ruraux alors ?
Oui, je vais vous... Ouais. Ouais. Oui, les permanences délocalisées, c'est complètement...
C'est complètement différent.
C'est lié dans le sens où les permanences délocalisées viennent répondre à une problématique... Nous, qu'on constate, qui est supplémentaire des femmes victimes de violences résidant en milieu rural. On sait qu'en milieu rural, il y a comme une double peine, en fait. On vit des violences dans le couple, mais si on réside en milieu rural, ça rajoute un facteur de risque. Les violences, statistiquement, peuvent être amenées quand on regarde les... Voilà, ça a été documenté partout dans le monde, on fait le même constat. Les violences peuvent durer plus longtemps. Parce que justement, ce qu'on se disait notamment en lien avec le tabou, il y a déjà un tabou social très fort qui pèse sur la question des violences faites aux femmes, en France en général, mais en milieu rural, c'est encore exacerbé. Mais voilà, la question de la mobilité aussi vient rajouter des freins. Le manque d'informations. On sait qu'en milieu rural, on ne connaît pas forcément de structure d'accueil spécialisée. Les femmes connaissent moins, notamment, et pas que les femmes, les partenaires un peu moins, je pense, mais par contre, les citoyens, citoyennes, on va dire, le 3919, l'existence du numéro d'écoute d'urgence pour les femmes victimes de violences, ne serait-ce que le 119 aussi également. Enfin voilà, je pourrais m'étaler, mais ce manque d'informations, il participe à cette double peine, comme on l'entend nous, comme on peut la verbaliser. Et malheureusement, on a ce chiffre qui revient et qui nous renvoie à cette réalité qu'on ne peut plus nier, c'est que 50% des féminicides, à travers les années, ça a été chiffré, 50% des féminicides ont eu lieu en zone de compétence de la gendarmerie, donc zone rurale ou semi-rurale, alors même que seuls 30% de la population y réside. Donc il y a une prévalence des violences en milieu rural. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a ces permanences délocalisées. Et c'est aussi, donc j'en profite pour faire la transition avec les relais ruraux, c'est pourquoi l'association s'est saisie de ce sujet du milieu rural et a décidé et a mis en place un projet qui s'appelle les relais ruraux dès 2016, voilà, je ne me trompe pas. 2016, c'est le début des relais ruraux et l'association avait déjà en 2012 fait une étude, enfin contribué en tout cas à une étude vraiment centré sur le milieu rural. Et les relais ruraux, simplement, ce sont des citoyens et citoyennes que nous allons venir informer, sensibiliser et former, in fine, sur la question des violences faites aux femmes, pour que ces personnes-là puissent être amenées à informer, être un repère et orienter des femmes potentiellement victimes de violences ou en difficulté vers notre structure, vers les structures compétentes aussi sur le département. Et donc pour quelque part participer à un petit peu briser cette omerta qu'il y a en milieu rural et ce manque d'informations.
Et ces relais ruraux, ça peut être des personnes volontaires qui vous contactent en disant « si moi je vais être un des phares là en zone rurale pour lutter contre cela ?»
Tout à fait. Comme ce projet, maintenant en tout cas l'association l'anime et le développe depuis bientôt 10 ans, finalement ça se fait assez facilement entre guillemets, hein, c'est-à-dire qu'on propose des temps où on va animer, ciné-débat, à l'époque, enfin il y a pas si longtemps que ça, mais on organisait régulièrement des repas en milieu rural avec l'accord et le soutien des mairies. Le projet s'est vraiment développé autour. Alors là on le repense et on continue à rester avec cette idée-là, mais voilà, il évolue le projet. Voilà, l'association cherche à maintenir ce lien qui est précieux au milieu rural avec les mairies. À travers les mairies, historiquement, on arrivait justement à toucher des personnes qui pouvaient être intéressées parce que les maires et les mairesses avaient finalement quand même connaissance des gens dans leur village qui pouvaient souhaiter s'investir avec cette mission en tant que relais, tout simplement. Et donc voilà, de fil en aiguille, finalement, on a développé un réseau. C'est à peu près 80 relais actuellement, actifs sur le département. Et les relais, en fonction aussi de du milieu professionnel dans lequel ils évoluent, de leurs envies aussi, de leurs souhaits, leur posture, leur positionnement face aux femmes, et dans leur terrain, quelque part, d'action, va changer. Donc un relais qui est, par exemple, dans un organisme public ou une structure médico-sociale ou derrière un cabinet médical, forcément va être un petit peu plus amené à identifier, à pouvoir repérer justement une femme qui vit des violences ou qui traverse une période difficile et qui peut être intéressée pour pousser notre porte. On sait que ce sera beaucoup plus fluide face à des personnes qui sont face au public, aux bénéficiaires, mais des citoyens, citoyennes qui travaillent dans une boulangerie, dans un salon de coiffure, à la poste, enfin vraiment dans n'importe quel finalement corps de métier, voire qui ne travaillent pas, peu importe, qui sont à la retraite ou qui soient en période de chômage, ce sont des personnes aussi qui pour nous ont tout à faire à s'emparer de cette question des violences, de cette question de voilà un fait social malheureusement, et à pouvoir agir à leur échelle. Et donc c'est là où on les invite, nous, ces relais. Citoyens, citoyennes, donc quand on parle d'informer dans les trois missions des relais, donc informer, être un repère et orienter, l'information, elle passe notamment par de la diffusion tout simplement de nos plaquettes, donc les plaquettes de l'association, le violentomètre, qui est un outil très intéressant aussi pour se situer dans sa relation de couple et identifier une situation de violence, et de diffuser, voilà, massivement, j'ai envie de dire, mais on sait très bien que voilà, c'est chacun à son échelle avec ses moyens, mais de diffuser ces outils-là qui pourront du coup tomber entre les mains d'une personne concernée, et elle-même fera son chemin, voire le transmettra à une voisine, une cousine, une amie, peu importe. Mais on sait qu'il y a aussi cet impact-là qui est difficile à mesurer, mais qui est très fort, qui est très puissant. Voilà. Donc nous, on insiste assez lourdement là-dessus, et c'est un travail qu'on aimerait pouvoir faire à l'association, de diffuser. On sait très bien que ça a un impact sur du long terme, voire court terme parfois. Il suffit de pas grand-chose pour pouvoir se dire « Ok, aujourd'hui, je vais y aller, je vais aller en parler, ou en tout cas, je ne suis pas seule et je peux être crue. »
Libération de la parole, Céline, avec ton expérience, est-ce qu'on dirait que les femmes osent de plus en plus parler, peut-être parce qu'on les a mis en confiance, parce qu'il y a un peu de médiatisation sur des structures comme Parole de Femmes qui peuvent être à même de les écouter, de les accompagner, le numéro 3919, qu'est-ce que tu dirais, est-ce que les femmes osent un peu plus parler qu'avant?
Alors, je travaille depuis 5 ans. Je dirais que c'est peut-être pas suffisamment longtemps pour pouvoir m'exprimer complètement sur ce sujet, mais de ce que je perçois à l'association, on reçoit, et c'est un fait, de plus en plus de femmes. Je n'ai pas en tête nos statistiques vraiment internes, à savoir est-ce que les femmes, entre le moment où elles ont eu l'information la première fois, combien de temps il s'est passé pour que plusieurs freins soient levés, pour qu'elles se sentent légitimes, et pas que. Enfin, je sais qu'il y a, voilà, il y a mille et une raisons pour lesquelles on ne pousse pas la porte ou on laisse passer du temps. Voilà. Il n'y a pas de jugement là-dessus, hein, mais voilà, chaque histoire est différente. Donc en tout cas, nous, en interne, si je devais parler au niveau de l'association, simplement, je dirais que oui, il y a plus de femmes qui poussent la porte. Donc, est-ce que ça reflète ce qui se passe au niveau de la société en général? Peut-être. Je pense qu'on ne peut pas nier l'effet MeToo, l'effet du Grenelle aussi, le Covid, qui a quand même venu mettre en lumière ce qui se passait aussi dans les maisons, enfin voilà, nous dans les récits aussi de les femmes qu'on rencontre, le Covid il revient souvent, pas souvent, peut-être c'est pas tout à fait juste, mais en tout cas ça revient
régulièrement
comme un facteur qui a déclenché soit des violences, soit une prise de conscience, les deux, voilà. Parce qu'en tout cas par contre souvent c'est plutôt les enfants, la grossesse qui vient malheureusement parfois quelque part déclencher les premières violences, peu importe la forme, hein, psychologique, physique.
Je voulais qu'on en parle aussi de ça, parce que la forme est très importante et très intéressante à souligner, parce que lorsqu'on fait souvent écho comme ça aux violences faites aux femmes, la quasi-majorité des personnes pensent uniquement aux violences physiques.
Oui, tout à fait.
Alors que la violence psychologique aussi est même souvent peut-être l'une des plus importantes et l'une des plus insidieuses.
Tout à fait. Oui, et puis finalement, quand on retrace un petit peu, quand les femmes racontent leur histoire, et donc des histoires qui peuvent être marquées par un vécu de violence physique, ça vient jamais Absolument jamais. Là, pour le coup, c'est, j'aime pas dire des généralités, mais là, en l'occurrence, c'est assez vrai, c'est qu'il y a jamais, ça vient jamais l'un sans l'autre. Il y a toujours des violences psychologiques affiliées, hein, voilà, dans le vécu, et les violences psychologiques sont présentes aussi dès le départ. Finalement, c'est très rare. Là, par contre, voilà, c'est chaque histoire est différente, mais en tout cas, c'est assez rare qu'une relation de violence dans le couple, quand il y a des violences, pardon, démarre directement sur des violences physiques. C'est un peu un cliché, en fait, c'est cette image-là. Voilà. Et il y a des violences physiques aussi qui se manifestent de manière aussi insidieuse. Voilà, c'est pas toujours des coups portés directement sur le corps. Ça peut être bousculé, ça peut être entravé dans ses mouvements, être bloqué dans un passage. Il y a aussi des violences sur les objets que nous, malheureusement, on entend souvent dans les histoires des femmes qui poussent la porte. Des coups portés sur les murs, dans les portes, des objets aussi qui peuvent appartenir à la victime et qui sont du coup abîmés, dégradés, ouais. Voilà, volontairement. Et ça renvoie aussi à la victime un message très fort de menace, en fait. Quand on perçoit en tant que victime le mobilier se dégrader autour de soi, on sent peser. Je pense la menace que ça pourrait être nous aussi, de la force aussi de l'autre et de la domination de l'autre. Et des violences sur les animaux aussi, qu'on peut retrouver, voilà, qui sont en tout cas qui sont plutôt physiques quelque part, mais qui sont assez mises de côté. Mmh. Et en effet, les violences psychologiques, verbales, sexuelles aussi, sont finalement moins évoqué, en tout cas, je pense que ça bouge de plus en plus, mais dans tout notre bagage culturel lié à ce qu'on peut voir à la télévision, dans les films, dans les médias aussi, ce qu'on peut entendre, finalement, cet effet un peu d'annonce, les violences physiques, en tout cas, font plus parler d'elles.
Sur les violences sexuelles, ça me fait penser à un témoignage que j'ai suivi à pas très longtemps, en disant oui, mais on était mariés. Peut-être rappeler aux femmes que c'est pas parce qu'on est marié ou qu'on vit en concubinage ou que je ne sais pas quelle forme qu'on doit tout accepter. Ça, vous l'abordez aussi.
Oui, tout à fait. Et en effet, c'est le viol conjugal est complètement puni par la loi. Hein, c'est incriminé. Simplement, c'est très compliqué déjà d'arriver à en parler, de soi-même conscientiser ce qu'on a vécu.
Qu'est-ce qu'on appelle le viol conjugal ?
Alors, on est sur le viol, donc on est sur la définition du viol. Donc, une pénétration, c'est contrainte, surprise ou menace. Sous, c'est différentes formes. J'espère que j'oublie rien. À partir du moment où il n'y a pas de consentement,
parce que pas envie, parce que fatigué, parce que un vrai mal au crâne ou un faux mal au crâne, bref.
Oui.
Tout ça, à partir de ce moment-là, ça peut être considéré comme un viol, même si on est marié.
Même si on est marié, oui. Le devoir conjugal n'existe pas. Voilà, c'est plus du tout d'actualité, depuis longtemps. Mais on sait que c'est encore compliqué dans les faits, que c'est ancré dans les mentalités et pas qu'au niveau du viol au sens pénétration. Voilà, il y a de multiples formes aussi de violences sexuelles, d'agressions sexuelles qui ont un impact sur les femmes qui subissent ces violences et qui ne peuvent pas en parler, qui n'osent pas en parler, et d'autant plus voilà, quand c'est vécu dans l'intimité, quand ça traite d'intimité, on n'ose pas mettre des mots dessus. Il y a plusieurs peurs, c'est lié à la honte, mais c'est lié aussi à la peur de ne pas être cru, parce que comment le prouver, ce viol ? C'est parole contre parole. Donc là, c'est là où nous, on intervient dans notre travail pour essayer un petit peu d'aider les femmes à décortiquer les circonstances dans lesquelles ont eu lieu les violences et essayer d'identifier des éléments de preuve potentiellement qui pourraient voilà, les aider à aller vers une forme de réparation devant la justice, mais pas toujours. C'est pas toujours la justice qui viendra, voilà, qui viendra réparer. C'est très variable.
Oui, tout accompagnement ne mène pas forcément à une séparation, à un divorce. Est-ce que ça permet des fois un mieux-être dans son couple par la suite? Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir ce rôle qu'on peut qualifier de médiateur, médiatrice?
Pas du tout. Et d'ailleurs, la médiation, quoi qu'il en soit, elle est interdite dans le cadre des violences. Enfin, quand on identifie des violences dans le couple, toute médiation est interdite. Voilà. Donc c'est pas notre rôle non plus, quoi qu'il en soit.
Un mea culpa général, parce que je me rends compte que lorsqu'on parle comme ça, là, depuis, on s'entretient, violences faites aux femmes, on se place toujours dans le cadre d'une femme qui vit avec un homme déjà. Mais est-ce qu'on parle aussi des violences qui peuvent être faites à des jeunes filles ou à des femmes qui ne sont pas mariées, paxées, en concubinage?
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on parle beaucoup, en effet, de violences dans le couple. Quelque part, c'est notre domaine d'expertise, mais on reçoit aussi toutes les femmes qui traversent... c'est pour ça que je dis une période difficile, parce que parfois, on a du mal à nommer aussi les choses, à savoir où on se situe. Mais ça peut être toute forme de violence, en effet, y compris en dehors d'une relation de couple avec cohabitation. Et après, on a d'autres structures sur lesquelles on s'appuie également, qui sont plus spécialisées, donc notamment pour les violences sexuelles, le planning familial, une association qui est plutôt sur les violences dans le cadre du travail, qui s'appelle Une sur cinq. Voilà, on va venir aussi tisser, nous, du partenariat. Ça fait partie de l'accompagnement, d'orienter les femmes vers d'autres structures quand c'est plus opportun pour elles.
Un dernier mot pour s'adresser directement aux femmes, maris ou pas, qui nous écoutent, qui soient peut-être victimes de violences, qui se posent encore des questions, et qu'est-ce que tu leur dis?
Déjà, je leur dirais que ces propos, peut-être c'est quelque chose qu'on j'aurais pu dire plus tôt, en tout cas, peuvent heurter. Je sais que voilà, ce dont on vient de parler, ça peut heurter parfois quand on écoute ça et qu'on ne s'y attendait pas forcément, si on entend ça à la radio notamment. Donc il ne faut pas hésiter à venir nous parler aussi de la façon dont on a pu dire les choses, de se questionner par rapport à ce qu'on vient de dire, par exemple. Ça peut être tout à fait une porte d'entrée. On sait que c'est voilà, quand on parle de violence, ça peut venir faire écho à l'enfance, ça peut venir faire écho voilà, à une situation tout à fait passé, voire actuel, c'est voilà, chaque histoire est différente, donc se sentir en tout cas douce presque envers soi-même et se sentir légitime à venir parler, quelle que soit la situation. Nous, on va être là pour, peu importe quelque part ce que vous vivez et la façon dont vous projetez ce que vous vivez, on sera là pour toutes les femmes. De manière inconditionnelle, voilà, c'est un peu ce que j'aurais dit. Et ne pas hésiter, ça paraît un peu pragmatique, mais d'aller voir notre site web, parce que dessus, justement en parlant des permanences délocalisées, toutes les dates y figurent, les adresses, donc voilà, avec les lieux précis, et le numéro de téléphone aussi, enfin voilà, pour pouvoir aller plus loin et respecter son rythme. Voilà, ce serait peut-être la dernière chose que je dirais. Nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, évidemment, qui fait partie de notre posture d'accompagnement. Chacune a un rythme très différent. Et donc, vous aussi, si c'est pour aujourd'hui ou dans quelques années, on espère, nous, que l'association sera toujours là. C'est l'objectif.
Cette chronique vous a été proposée par l'association Parole de Femmes du Tarn, un réseau d'écoute, d'accompagnement et de ressources pour les femmes sur tout le département. Retrouvez l'association Parole de Femmes du Tarn au 72 de l'avenue Saint-Exupéry à Gaillac, ainsi qu'une fois par mois lors des permanences délocalisées à Carmo, Vaour, Les Cabanes, Revel et Puy-Laurent. Plus d'informations et de détails sur www.paroledefemmes81.fr.